When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Et pour la première fois depuis la Coupe du Monde, je suis avec le grand, l'immense William Pereira. Salut William.
Salut Aymeric, que d'éloges, que de flatteries, salut tout le monde.
De quoi on va parler? Bah de football et de multipropriété, c'est un peu ça l'histoire.
De protestation de droite et de gauche, là encore, finalement.
Exactement.
Ce sont deux visions du sport qui s'affrontent.
Donc tout part quand même, je pose un peu le truc, c'est toi qui as bossé sur le sujet, Will, tu vas nous en parler. Tout part du FC Lorient, en fait, hein, ce club qui est frisson de début de saison. Un des clubs qui joue le mieux au football aujourd'hui avec l'OM et Lens. Vraiment, vraiment méga sexy, 7e de Ligue 1, un entraîneur aux idées incroyables, un vrai passionné. Petit patelin breton presque,
ouais.
Qui fait kiffer.
Mais tout ça, c'est trop beau, tu vois.
Bah
ce côté vraiment, les conférences de presse de Le Bris qui nous apprend le football, tout
on
ça.
Peut,
c'est,
ouais,
c'est, on est vraiment dans un conte de fées, tu vois, ça pouvait pas durer.
Non, il fallait qu'il y ait un dans le potage. Et elle est arrivée bien proprement avec donc l'acquisition par le milliardaire américain Bill Foley, 78 ans, hein, fortune évaluée à 1,2 milliard, l'acquisition de 30% du FC Lorient, lui qui venait d'acheter juste avant le club de Bournemouth.
Octobre 2022.
C'est ça. Donc là, tout est allé méga vite. Et dans la foulée, évidemment, un petit transfert d'Ango Ouattara à hauteur de 22 millions d'euros.
22 millions, voilà. Alors que bon, il est estimé à une dizaine de millions d'euros. Donc là encore, bon.
Voilà. Donc voilà, on est dans une belle histoire de conflit d'intérêts. Enfin voilà, encore on pose le problème de la multipropriété. Voilà, le petit club comme Lorient, sympathique, la bourgade qui joue bien au foot et qui rentre de plein pied dans ce qu'il y a de plus moche dans le football. Alors, en tout cas, c'est ce qu'en pensent du moins les ultra-lorientais qu'on a interrogés.
Hein. Les ultra-lorientais qui ont communiqué sur les réseaux, notamment dès le début, en exprimant leur mécontentement. Mmh. Je les cite, ils disent sur les réseaux, le Bournemouth FC nous souhaite bienvenue dans la famille. Alors très clairement, c'est pas passé.
Ouais,
effectivement, il y a un observateur du football qui nous disait en off que c'était hyper maladroit, hyper malheureux comme tournure,
quoi.
Parce que c'est hyper condescendant d'une pour les supporters et aussi pour l'entraîneur. Il me le disait à juste titre, imagine dans la tête de Régis Le Bris quand on te dit t'as un projet, tu construis tout,
ouais.
Et en fait tout ça va partir à un moment ou un autre à Bournemouth.
Merci du travail, on va te prendre tes joueurs, quoi.
Tu peux continuer à te brosser, quoi. Bon, après ça serait pas une nouveauté, hein. Tu vois, je pense à l'époque Monaco, tu sais, quand c'était Jardim, genre on lui disait chaque année genre construis une nouvelle équipe, tout va partir.
Oui c'est vrai.
Enfin bref, m'égare. En gros, les ultra lorientais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on peut pas faire plus insultant, le FC Lorient n'est pas une succursale, important, ou la partie d'un groupe quelconque, c'est le club de football de notre ville. Il est hors de question que nous devenions un vulgaire club satellite, un simple centre de formation pour la maison mère anglaise. Pourtant, le départ de Ango Ouattara ne fait que renforcer cette crainte.
C'est clairement ça, et c'est un peu même surprenant parce qu'on l'a vraiment pas vu venir, les Lorientais l'ont pas vu venir. Alors forcément, Loïc Ferry, le président, ça fait des années qu'il est là et qu'il bosse quand même plutôt bien avec le club, il s'est forcément défendu. Là, je vais le citer à mon tour, il dit « Le partenariat avec notre nouvel actionnaire venu des États-Unis me semble diabolisé. Son arrivée nous ouvre pourtant des portes sans toutefois enfermer, car notre autonomie de gestion est intacte et voilà, on ne va pas compromettre nos valeurs ou notre identité. Je comprends que vous manifestiez des inquiétudes face à ce qui représente encore l'inconnu à vos yeux. » Donc ça, c'est la fameuse excuse de « vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer », qu'on voit dans notre sphère. « Nous ferons le nécessaire pour vous éclairer et vous rassurer. » Il répète que le FC Lorient ne deviendra pas une succursale, qu'il en reste l'actionnaire majoritaire et le président, et qu'il a le pouvoir de décision nécessaire sur la stratégie du club. Bon, est-ce que ça va suffire à calmer les ultras, les supporters plus globalement?
Bon, je suis pas très sûr de ça. Alors, la seule bonne nouvelle dans cette histoire, et par contre, la rumeur qui va pas du tout dans le sens de ce que dit Ferry, mais qui va plutôt dans le sens des rêves de structure verticale de Foley. Lui, son ambition, il l'a dit, c'est on fait commencer un joueur, je dis un exemple bidon, genre, je sais pas.
Sofia.
Ouais, voilà,
Sofia,
voilà, qu'il aille en Belgique, qu'ensuite il aille à Lorient, et après qu'il aille à Bournemouth.
Un truc pyramidal, en fait.
Ouais, voilà. Bon, lui, il veut jouer à Football Manager. Une autre rumeur, c'était que Bournemouth était très intéressé par Enzo Lefay. Ils ont fait un peu pression pour voir si c'était possible de l'avoir. Selon nos informations, Enzo Lefay n'est pas du tout intéressé par ce transfert. Et c'est la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que le libre arbitre du joueur prévaut et continuera de prévaloir. Alors, est-ce que ce sera valable dans toutes ces structures? J'en sais rien, mais pour le moment, ces patrons-là, ces gros groupes ne peuvent pas vraiment interférer dans la carrière des joueurs, à moins de les convaincre.
Oui, mais à moins que, bon, si Bournemouth pose 45 millions d'ici une semaine sur Enzo, on peut dire que le MP Enzo, l'histoire du libre-arbitre, je ne sais pas s'il ne pourra peut-être pas s'asseoir dessus, mais bon.
Après, ça sera aussi des questions salariales. Est-ce que, au moment, moyennant un salaire démentiel, il acceptera ou pas? Mais s'il n'a pas envie, il n'a pas envie.
Cette histoire de multipropriété, elle est, alors je ne sais pas si on peut dire inquiétante, mais c'est des clubs tellement puissants, des milliardaires qui achètent 1, 2, 3, 4 clubs, qui ne veulent pas rater la pépite de demain. Donc quitte à, voilà, au PSG on a vu hein, combien sont partis dans d'autres clubs parce qu'ils n'avaient pas la capacité de jouer, même de s'entraîner avec les pros trop tôt. Mmh. Bah, du coup, voilà, tu prends un joueur, tu le mets d'abord dans un petit club, mais tu le gardes dans ton giron et le jour où il perd, c'est, bah, il est déjà à toi. Et donc tu ne peux pas le laisser partir ailleurs. Ce n'est pas la première fois, il y a d'autres groupes dans le monde qui font ça. Ouais, je te laisse en citer quelques-uns.
On a, bah, juste, je cite Luc Arondel, un économiste du football que j'ai eu, directeur de recherche au CNRS, qui lui cite des chiffres du CIES. En 5 ans, on est passé de 35 multipropriétés à 78. C'est plus du double.
Ouais, c'est
considérable et ça concerne 200 clubs de foot. Donc c'est un phénomène en forte croissance et on a quelques exemples. Les plus connus sont évidemment le City Football Group et Red Bull, mais on a aussi le 777 Football Group de Gênes, du Standard, de Vasco de Gama au Brésil et de Séville. On a quoi d'autre?
En France, on a Textor. Le fameux Textor. Hein,
on a tout simplement Textor qui a des parts à Crystal Palace, qui n'est pas le seul d'ailleurs à avoir des
parts. Oui, alors Crystal Palace, c'est un club qui est carrément démonté en plusieurs morceaux à plusieurs milliardaires. Chacun tripote un peu le truc. C'est
là, c'est quoi. Complètement lunaire. Donc Textor, il y a Botafogo, il y a Molenbeek.
Et l'Olympique Lyonnais, donc.
Et l'Olympique Lyonnais, en plus.
Qui vient de rentrer dans la famille, hein, parce que voilà, les Américains s'accaparent de plus en plus le foot européen. Quoi.
C'est ça, il y a de plus en plus d'Américains qui viennent s'amuser avec nos clubs. Donc voilà, il y a plein de gros groupes qui sont en train de grandir, peut-être vont remettre en cause l'équité sportive, et qui créent aussi une stratification aussi, parce que dans cette logique pyramidale, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas déjà, cette stratification, cette logique verticale. On ne peut pas dire que Lorient avait vraiment jusqu'ici les chances de rivaliser avec le Real Madrid, non. Mais disons que tu cloisonnes encore plus.
Oui, c'est gravé dans la roche désormais, voilà, vous êtes le club en dessous de Bournemouth. Alors, Bournemouth a juste la chance d'être en première ligue, parce que sinon fondamentalement, hein, Bournemouth-Lorient, j'ai envie de voir quoi.
Voilà, c'est ça.
J'ai envie de voir sur le terrain.
Et c'est ce que me disait Antoine Gobin, le CEO d'un club belge...
Beveren,
club formateur de Yaya Touré. Antoine Gobin, il expliquait qu'il faut que dans les structures, chacun accepte sa position.
Ouais.
Genre par rapport...
Ça ne sortait pas du rang.
Enfin, alors que non, en fait. Enfin, moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette vision-là. Je pense que pas grand monde qui aime le football ne l'est non plus. Parce que, comme tu disais, s'il y a un match un jour, je ne sais pas, hein, eux, Beveren, ils sont dans la même structure qu'Augsbourg et donc Crystal Palace. Bah, si un jour, Beveren remonte en première division belge, va en Europe et affronte Crystal Palace, bah, moi, je suis supporter de Beveren. Je n'ai pas envie qu'on me dise bah, Crystal Palace, c'est au-dessus, quoi, non.
La question, alors peut-être pas centrale, mais l'une des questions à se poser, c'est la question bah voilà, des conflits d'intérêts. Quand on voit Ouattara à 27 millions d'euros, est-ce que si Séville, ou je prends d'autres exemples, était venu le chercher à prix égal, est-ce qu'il aurait eu le choix de partir dans un autre club? Et puis, il y a cette histoire de confrontation en Coupe d'Europe. Et là, ça pose vraiment problème.
Et là, on en a eu l'exemple récemment. Alors, Luc Arondel, qui est allé chercher un exemple sorti de derrière les fagots dans les années 99-2000, entre l'AEK Athènes et le Slavia Prague, qui était détenu par Inix Sports, qui est aujourd'hui Tottenham, en fait. L'UEFA avait interdit cette mascarade, mais pour accepter quelques années plus tard que les deux clubs de Red Bull, Salzbourg et Leipzig, s'affrontent en Ligue Europa. C'est en 2018, je crois.
Ouais, et là, c'est une décision qui peut être lourde de conséquences, quoi.
Bah, ça peut faire jurisprudence, mais tout part d'une immense magouille parce que officiellement, Leipzig n'est pas le club de Red Bull. Officiellement, le RB, c'est Rasenballsport.
Oui, effectivement, oui.
Qui veut dire sportball sur gazon. Oui. On commence à la connaître, cette histoire, mais elle est complètement ubuesque. Ouais, on se fout à peine de notre gueule.
Très clairement, ouais.
C'est un bidouillage administratif qui va, comme tu le dis, être probablement lourd de conséquences dans les années à venir. Surtout que mathématiquement, là, en augmentant le nombre de galaxies, de clubs, tu augmentes les risques qu'un jour des équipes du même groupe s'affrontent en Coupe d'Europe. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rebidouilles les tirages au sort? Est-ce que tu dis que finalement les clubs d'un même pays peuvent être dans le même groupe, mais pas les mêmes clubs d'un même actionnaire? Enfin,
Ouais, ça devient n'importe quoi en fait. Il faudrait adapter la législation footballistique européenne, voire mondiale, à ce nouvel environnement qui est complètement dingue. Après, il y a cette question. Est-ce qu'on va pouvoir laisser faire ça? Est-ce que toi, il te disait, je ne sais plus quel interlocuteur que tu as eu, te disait que ça, c'est même pas l'UEFA qui va devoir régir ça. C'est tellement mondial que c'est la FIFA.
On fait pas trop confiance à la FIFA, mais ouais, effectivement, c'est ça. C'est que comme c'est un phénomène global, bah, tu prends Citigroup, ils ont du monde à Melbourne, ils ont du monde à Montevideo. Bon, ouais, tu peux pas te dire que c'est seulement du seul fait de.
Même l'Union européenne n'aurait pas la main là-dessus. Le problème, c'est qu'on sait très bien que la FIFA, quand elle doit faire des choses, quand elle doit porter son courage à deux mains.
Quand elle fait des choix, elle le fait en fonction de l'argent. Et là, le problème, c'est que l'argent ne va pas dans le sens du romantisme sportif.
Il va y avoir des questions dans le futur, vu que ces multipropriétés se développent de plus en plus. Après, le phénomène nouveau, et ce qui est intéressant dans tes recherches, c'est le côté les Américains à la conquête de l'Ouest. Ils n'arrêtent pas d'investir, tous les milliardaires arrivent chez nous. Ils se sont dit, ça y est, le soccer, c'est pour nous, quoi.
Ça part d'un constat lucide. Les types sont conscients que c'est le sport numéro un dans le monde, mais ils se rendent compte qu'il n'est pas du tout géré de la même manière.
Ouais.
Et surtout, proportionnellement, et c'est ce que me disait Luc Arondel, c'est marrant parce que on dit toujours qu'il y a des sommes indécentes dans le football, mais si on les compare aux sommes qu'il y a en MLS ou NBA, qui sont inférieures au football en termes de popularité,
de marketing,
en fait, le football est pas cher.
Pas
cher du tout. Et donc, du coup, il y a une opportunité de profit illimité. Et autre détail, ils se rendent compte que le football ne dégage pas de profit. Enfin, les clubs de foot.
Historiquement, on n'a jamais fait de pognon avec. Un club de foot, c'est déficitaire. Si tu viens, c'est éventuellement pour améliorer ton image, comme le Qatar, mais tu viens pas pour en dégager des bénéfices. Mais les Américains ont décidé qu'ils allaient nous apprendre la vie.
Exactement. Ils vont nous apprendre comment dégager des sous avec le football. Je suis curieux de voir comment ils vont y arriver. Après, ils ont développé apparemment des petits fonctionnements pas inintéressants, comme tu vois la centralisation de données, de scouting, d'essayer d'avoir des prix sur des sponsors au sein de même clubs sœurs, comme ils disent. Il peut y avoir des économies faites d'un côté. Je sais pas comment ils vont s'en sortir pour dégager in fine de l'excédent, mais pour être compétitif dans le football au plus haut niveau, face notamment aux capitaux illimités des Émirats, du Qatar, maintenant de l'Arabie Saoudite, il va falloir s'accrocher, je pense.
Du coup, on va suivre ça, mais c'est vrai que bon, le cas du FC Lorient est quand même particulièrement intéressant chez nous, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce que ce genre de club, même si Loïc Ferry, habituellement, il est à Londres, à la City, mais on va vraiment suivre ça avec attention, parce que c'est quand même pour le moins intéressant, inquiétant, diront les supporters, et puis bon, ça traduit quand même un peu ce qui est devenu le football aujourd'hui. Nouvelle évolution.
Une nouvelle ère.
Une nouvelle ère. C'est vraiment l'ère de la multipropriété. Alors, pour le meilleur, Inch'Allah. Pour le pire, potentiellement aussi. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Évidemment, on vous invitera à aller lire le papier de William qui sortira dans les jours à venir.
Probablement dans les jours à venir, qui fera 150 000 signes et qu'il faudra prendre 3 jours pour lire.
Posez des RTT et préparez-vous au pavé. Bah écoute, merci Will pour cette histoire quand même hyper intéressante, hyper flippante, hyper un peu tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Passez une bonne journée, bon week-end et puis salut tout le monde.
Ciao.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.